Vous écoutez
RMC.
Bon, Pierre Masse, on y va. Parce que alors, l'actu du jour est la suivante concernant les droits de télé. Après, on parlera de Media Pro, on parlera du prix, on parlera de Free qui fait son entrée aussi dans le foot. Mais l'info du jour, c'est que les droits en Allemagne baissent. Aujourd'hui ont été rendus donc le prix pour le prochain cycle de droits les quatre prochaines années en Allemagne. Ils étaient
2021-2025.
Voilà. Exactement. Ils étaient à 1,4 milliard et passent à 1,1. Hein, voilà. Est-ce que cette baisse en Allemagne préfigure de ce qui peut se passer dans les autres grands pays de foot européens?
Tu me permets une première question, est-ce que ça a déjà existé?
C'est déjà une question, ça.
Oui, mais il faut
une question objective. Si je veux bien que ta question soit la deuxième question,
vous voulez, je vais répondre après.
Oui, alors non. Non, ce n'est pas la première. Il y a eu des baisses en fait plus spectaculaires que ça. Parce que la baisse ici qu'on a en Allemagne, en fait, elle est infime. Il y a 5% de baisse, pas grand-chose. En fait, ce qu'il faut voir, c'est aussi l'évolution sur un plus long terme. Le précédent appel d'offres en 2016, qui portait donc sur les années...
Parlez bien dans le micro, Pierre.
2017 à 2021, il s'était soldé avec une augmentation de 85%.
C'est énorme.
Ah. Mmh. Et là, du coup, même flat, c'est un échec. Hein. Mmh. Idem, en fait, ça date pas d'hier. C'est ce que j'explique dans mon livre aussi. C'est que moi, je dis qu'il y a une bulle qui va exploser. Elle est en train d'exploser, ou en tout cas de se corriger. Et la Première Ligue, le championnat le plus emblématique, eux, ils ont fait en 2018 déjà moins 10% après deux augmentations successives de 70%. Ouais. Plus 70, ouais. Plus 70 trois ans plus tard, et moins 10
et où, la réalité
en 2018.
Est-ce qu'elle est difficile à trouver, la réalité de ce qu'on pourrait appeler le juste prix après ces augmentations, ces baisses qui visiblement ne sont pas totalement significatives? Est-ce qu'on arrive à déterminer ce qui
c'est une bonne question, juste prix? C'est une bonne question, Daniel. En fait, de juste prix, il n'y en a pas.
Eh oui.
Ça dépend de l'utilisation du produit, comment ça va être utilisé plus tard.
La rentabilité,
pas du tout.
À l'abonné ou pas.
Pas du tout. Non, ça dépend que d'une chose. Ça dépend de la concurrence entre les opérateurs sur un marché donné. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de l'Angleterre. Il y avait une grosse concurrence entre Sky et BT pour les droits. Les droits ont flambé. Puis, ils ont compris qu'ils payaient beaucoup d'argent. Ils se sont serrés la main. Boum, moins 10%. D'accord. Ici, par exemple, en France, on est dans un marché mais complètement unique en Europe avec quatre concurrents. Enfin, pour le moment, ils tombent un peu les uns après les autres. Mais enfin, ouais. Au départ, il y en avait quatre. C'est une situation complètement unique. Les ligues et les clubs, ils sont déjà contents quand il y en a deux.
Ouais.
Quatre, là, c'est comme...
Donc là, on monte en cocotier, quoi, quand il y en a quatre, parce que tout le monde
exactement,
se tient à bout.
Exactement.
Mais la France s'est souvent servi de ça. La France a eu quelque part un petit peu de la chance, si on reprend un historique récent, entre le milieu des années 2000, où TF1, par le biais de TPS, a fait gonfler, arrivé ensuite de l'acteur Orange, qui a permis également une petite envolée, puis Bein, ouais, qui, en prenant le PSG et sa chaîne de télé, a permis l'augmentation, et là, Mediapro est tombé du ciel.
Disons qu'en France, l'historique montre que tout tourne autour de Canal. Canal était en monopole, TPS est arrivé, qui était l'union de tout le monde contre Canal, en fait.
C'était TF1 et
M6. M6, France Télécom, enfin,
ils
étaient tous dans le tour de table. Ça n'a pas été si difficile pour Canal de se débarrasser de TPS.
Le premier appel d'offre, TPS a mis plus.
Voilà, ça a pris un peu.
Quand même jamais cette chose qui est restée assez... unique dans l'histoire de l'appel d'offres, c'est que celui qui a mis plus n'a pas été choisi.
D'accord. Même. Ça a pris un peu de temps, mais enfin, ils les ont eus. Puis après, Orange est venu. Orange a fait des grosses erreurs, notamment dans le choix des matchs de Ligue 1 qu'ils ont acheté pour beaucoup d'argent.
Oui, je crois qu'Orange s'est vite aperçu.
Et Orange, ça n'a pas tenu très longtemps. Mais après, c'est devenu beaucoup plus difficile pour Canal à partir de 2012, parce qu'ils ont vu se succéder Bein en 2012. 2015, Altice/SFR/RMC Sport, que vous connaissez bien, et pour terminer en 2018, Mediapro.
Ouais.
Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Canal est un peu en train de nettoyer le marché, on va dire.
Oui, ils s'en sortent quasiment toujours par le haut, finalement.
C'est-à-dire qu'ils reviennent à leur situation qu'ils préfèrent, c'est une situation de monopole, ou en tout cas de duopole, on va dire, organisé, comme c'était devenu finalement avec Bein. Juste avant qu'RMC n'arrive.
Juste, ne croyez pas que vous qui nous écoutez, que ce soit on fasse une émission sur le fonctionnement des médias. C'est très important parce que le financement de nos clubs vient pour la plupart d'entre eux, à plus de 50% des droits télé.
Ah bah chez nous,
donc c'est crucial en fait ce qui se passe.
En France, c'est beaucoup plus que ça.
C'est moins le cas en Allemagne.
Il n'y a pas que chez nous quand même. Il y a beaucoup de pays quand même où les droits
télé restent importants. En France, c'est assez particulier.
Je pense qu'on est les plus dépendants de l'oseille. Les grands pays européens.
Avant, tu penses ?
Je pense qu'on est les plus dépendants.
Nous, c'est vraiment droits télé, vente de joueurs. Droits télé, vente de joueurs. Et pour la majorité des clubs, c'est quasi droits télé.
Pierre, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est certain que ça varie d'un pays à l'autre, mais enfin, de manière générale, les droits télé dans le budget d'un club, c'est entre 40% c'est et 70% ou 80% pour les plus petits clubs.
Pour les plus petits clubs, bien sûr.
Donc c'est crucial.
40%, là, tu reprends tous les pays européens, en fait.
40%, tu vois, de par près. Exemple, c'est dans le championnat d'Allemagne, des clubs qui sont très costauds avec des grosses rentrées de ticketing.
40%.
Là, on est à 40.
Comme en Espagne, où Fred Hermel nous racontait qu'ils étaient par moment, des fois, même les gros clubs, à moins de 40%.
Mais 40, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, oui.
C'est déjà une ligne. Et t'arrives à équilibrer, parce que tu rentres de l'oseille par autre chose.
Il vaut mieux 40 que 60 ou 70. Mais en France, il n'y a pas de club à 70%.
Ah si, la plupart des petits clubs.
Moi,
je dirais au moins 60%, 70% des clubs, bien sûr. Bah, ils vont faire rentrer l'argent comment ?
Et comme le dit Daniel, la France c'est un championnat.
Non, Montpellier, tous ces clubs, c'est comment ils font rentrer l'argent.
Un championnat intermédiaire, c'est un championnat de passage, et donc, les grosses rentrées, c'est les droits télé et c'est les transferts. C'est pas la même chose, par exemple, pour l'Angleterre, l'Espagne ou même l'Allemagne, qui ne sont pas des championnats de passage où les joueurs restent plus longtemps.
Pierre Masse est avec nous. Je rappelle le titre du livre. Pierre était venu dans l'After à l'époque. Le business des droits TV du foot enquête sur une bulle explosive. Donc c'est très intéressant parce que ça décrypte tout ça évidemment. Est-ce que en France, on peut dire que on a parlé des différents acteurs. Est-ce qu'on peut dire que la Ligue a réussi des tours de force ces dernières années? À chaque fois arrivant à faire des bascules quoi, et en faisant monter.
Et Diapro, c'est pas un tour de force, c'est un tour de magie.
Voilà, ou des tours de magie, enfin.
Et d'ailleurs, on sait toujours pas si le lapin va sortir du chapeau.
Exactement, j'espère que c'est pas un illusionniste pour autant.
Exactement. Est-ce que, arrêtons-nous là-dessus.
J'avais déjà posé une question, je te rappelle.
Ouais, c'est ça, on parle de ça.
Mais je veux bien répondre et puis je reviens.
Fantastique, t'as bien. Il pose une question sur ta question.
Gilbert, c'est que la question que tu poses, c'est la deuxième, et la première, c'est celle de Daniel, mais qui pose après la deuxième.
Voilà.
Donc la Ligue 1. Pour répondre.
L'émission de Daniel, la perturbe pas comme ça, quand même.
Pour répondre à la question, la Ligue 1 a fait un excellent boulot sur Mediapro et pour dépasser ce fameux milliard qui était presque devenu une obsession et surtout de pouvoir rattraper un peu les autres ligues du Big Five. Donc oui, ils ont fait un bon boulot. Après, c'est une opportunité un peu extraordinaire. Des aventuriers comme Mediapro aujourd'hui dans ce marché, on n'en trouve plus beaucoup. Effectivement, comme Daniel le souligne aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de présidents de clubs qui...
Ils flippent.
Ouais, qui ont des doutes, en tout cas. Qui ont des doutes sur est-ce qu'on va être payé. Le premier paiement n'est dû qu'au début de la saison, donc fin août. Il n'y a pas un paiement qui a été fait avant. Donc le contrat a été signé en 2018. Il n'y a pas de prépaiement qui a été demandé ni exigé.
On aurait pu mettre ça en place.
Les garanties sont solides. Bah oui. Pourtant, rumeurs ne cessent d'enfler sur le fait que ça ne pourra pas aller au terme.
Ce sont deux choses différentes. Ils auraient déjà pu demander un prépaiement, ne fût-ce que 5%. Hein. Effectivement, c'est une chose. Et puis, effectivement, ils ont été critiqués parce que ils n'ont pas demandé de garantie bancaire, ce qui est la raison pour laquelle d'ailleurs Mediapro s'est fait sortir d'Italie. Exactement. Didier Chiodi, et il a raison, trouver une garantie bancaire pour ce montant-là, c'est impossible, ça n'existe pas. Alors ils disent qu'ils ont la garantie de l'actionnaire chinois. Mais cet actionnaire chinois est très mystérieux, personne ne connaît bien. Est-ce que c'est pas un actionnaire chinois très puissant et très connu ?
La majorité par des Chinois.
Ouais. Oui, à 60% par des Chinois qui s'appellent Orient Hontai. Ouais.
Mediapro, c'est les aventuriers.
Oui, ce sont des aventuriers. Pourquoi ? Parce que ils arrivent sur un marché comme la France, ils n'ont pas un client, ils n'ont pas encore une chaîne.
Ils n'ont pas la distrib.
Ils n'ont pas encore la distribution. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer, qu'ils allaient faire des annonces sur la distribution déjà la semaine passée. Il n'y a rien qui est venu. C'est vrai.
Vous qui êtes expert, l'inquiétude, vous la comprenez ou vous dites comme dit la Ligue ou comme vous balayez d'un revers de main en disant vous inquiétez pas, ça va venir. Ou est-ce que vous comprenez qu'il y ait une inquiétude là-dessus?
Ah, moi, je la comprends à 100%.
Bah, bien sûr,
moi aussi. 100%. Parce qu'en plus, Mediapro, je connais. Mediapro, c'est une agence. Donc, en fait, Mediapro a acheté les droits. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, Mediapro? C'est les revendre plus cher. Comme une agence.
Ouais.
Pas faire chier à créer une chaîne.
Ouais. Non, mais c'est, vrai. Non, mais
c'est quand même vrai. Ça coûte de l'argent. C'est... Donc, l'idéal pour eux, et c'est. Il fonctionnait comme une agence, c'est de les revendre à Canal avec une marge de 5%.
Là, c'est mal tourné.
Et peut-être non, mais non seulement c'est ce qu'ils voulaient faire, Jérôme, mais c'est ce qu'ils veulent encore faire aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'ils mettent autant de temps pour mettre cette chaîne en place.
Enfin là, bon, donc, là ils embauchent des gens, ils ont des studios, ça commence à prendre forme quand même.
Oui, ça commence à prendre forme, mais enfin, il n'y a pas encore.
Si demain ils ont un acheteur, ils arrêtent tout. Ils vendent.
Évidemment. Bien sûr!
Tout de suite.
Les mecs, ils les ont embauchés.
C'est flippant quand même.
Mais bien sûr que c'est flippant. Depuis le début, je dis que c'est flippant cette histoire.
Là, c'est une évidence.
Quant à la rentabilité.
Alors, effectivement.
Euros, ils vont les trouver où, les 3 millions d'abonnés à 25 euros pour 8 matchs de Ligue 1?
Voilà. Moi, alors, rappelez-nous si vous voulez réagir. Est-ce que vous êtes prêts à payer 25 euros?
Jérôme veut savoir. Déjà, on est 4 là.
Ouais, on est 4
à prendre l'abonnement.
Tu vas le prendre, même Daniel.
Par obligation professionnelle.
Bah voilà.
Déjà, non, si je me mets, si je me mets dans la peau du mec qui n'a pas l'obligation professionnelle, je mets jamais de la vie ma bonne.
Une trentaine,
mais jamais de la vie ma bonne.
Jamais de la vie ma bonne. J'ai interdit ton streaming là. Arrête.
Ah ouais, avec ça. Malheureusement, jamais vraiment été bon en streaming.
Je n'excuse pas d'apprendre un jour. Moi, je trouve jamais le bon truc.
Moi, chaque fois que je stream, je tombe sur un site porno. Je sais pas pourquoi.
Ou des pubs, beaucoup de
des pubs,
ou des pubs sur un site porno.
La rentabilité alors.
Alors, avant même de parler de la rentabilité du projet de Mediapro, vous devez peut-être parler de sa viabilité, parce que ce qu'on entend, c'est que oui, 25 euros, c'est pas cher, ça c'est le discours.
Ah, mais qui dit ça? C'est super cher.
C'est eux qui disent ça.
Ah, c'est eux qui disent ça.
ils disent 25 euros, c'est pas cher. On est les moins chers en Europe, en Espagne, on doit payer 80 euros
c'est
par
faux,
mois.
C'est faux. Sport, c'était moins cher.
Tout à fait, enfin, peu importe, c'est les discours qu'on entend.
25 euros, c'est pas le problème, c'est 25 euros pour 8 matchs de Ligue 1 et la Ligue 2.
Voilà, et alors.
Faut mettre le produit en face.
Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que apparemment, 3 millions et demi d'abonnés, ils y arriveront facilement parce qu'ils sont arrivés à 4 millions et des en Espagne. Alors, je sais pas qui c'est ils, parce que la chaîne espagnole, c'est. C'est le telco espagnol, c'est pas Mediapro. Mais même s'ils arrivent à 3 millions et demi, je sais pas quand ils vont arriver à 3 millions et demi. Ce sera pas au jour 1, hein, ce sera pas
peut-être même pas la première année quoi. Ça c'est sûr hein.
Ouais, enfin
donc ils peuvent se retrouver, excuse-moi Jérôme.
Ils ont pas l'intégralité en plus.
Non, ils ont que 8.
Alors 8, il y a aussi évidemment un grand danger
il y a la Ligue 2.
Que je pense Il y a un grand danger que je pense tout le monde connaît, c'est le piratage, bien entendu. Non seulement il y a le streaming dont tu parles, Daniel, mais il y a le phénomène de l'IPTV, qui est quelque chose d'assez unique au sport, parce que c'est le seul piratage payant qu'on connaisse. Ça n'a pas existé ni dans la musique ni dans la fiction, mais ça existe dans le sport et ça fonctionne. On sait aussi que quand, par exemple, la Ligue des Champions est passée sur RMC Sport, ben l'IPTV a fait boom en France. Parce qu'il fallait prendre un abonnement à ceux qui étaient abonnés à Canal et à beIN devaient prendre un abonnement supplémentaire. Et beaucoup, à ce moment-là, ont fait le pas vers l'IPTV. Et ici, ça va être exactement la même chose.
Ouais, bien
donc
sûr.
Ceux qui ne sont pas encore à l'IPTV vont en tout cas se demander, est-ce que je prends un abonnement Mediapro ou est-ce que je vais à l'IPTV?
C'est-à-dire fraude.
Et illégal.
Faut rappeler que l'IPTV, c'est de la fraude. Hein.
Pirate et illégal, tout à fait.
Est-ce que Mediapro, donc, pour avoir un modèle comme beIN Sport, où en fait, il n'y a pas de rentabilité, parce qu'on sait que beIN Sport n'a jamais atteint le point de rentabilité, est-ce que ce pourrait être la même chose pour Mediapro?
Moi, personnellement, je vois pas comment il pourrait être rentable, même sur un cycle qui est plus long que le cycle classique, qui est de 4 ans. Moi, je parierais pas grand-chose.
Qu'est-ce qui se passe alors?
Le foot français est quand même en danger.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler de danger? Parce qu'on parle maintenant de bulle. C'est vos mots, le bulle qui explose et tout. Qu'est-ce qui se passe si ça explose?
C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, qui paye la Ligue? Donc, forcément, en fait, c'est une question de timing. Mettons-nous la première année. La première année, ils ne seront forcément pas rentables. On l'a dit, ils n'auront pas leurs 3,5 millions d'abonnés. Qui va payer cet argent à la Ligue? On espère que c'est l'actionnaire chinois.
Okay.
Mediapro, c'est une boîte qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires 2 milliards d'euros, c'est bien, mais c'est pas une énorme boîte. Ouais. C'est pas avec ça, ils font beaucoup de production. C'est pas avec ça qu'ils vont, Et c'est pas avec ça qu'ils vont régler le chèque de la Ligue 1, surtout si à côté, ils font un contrat sur le foot italien. Donc, est-ce que c'est l'actionnaire chinois qui va payer? Tout le monde pense que oui, mais
rien n'est moins sûr, quoi.